Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, je suis en compagnie d'André-Jean Rouleau et de Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour.
Bonjour! Bonjour!
Grosse émission aujourd'hui, on va critiquer pour vous les films La Guerre froide, Lola et ses frères et le film Glace. C'est bien ça, André-Jean?
Oui, ou en fait, vert en français.
Vert en français, bon, voilà. Et tout ça un peu plus tard dans l'émission. Sinon, en deuxième demi-heure, je vous propose un nouveau petit bloc, une nouvelle rubrique, disons ça comme ça, de vérification des faits dans certains films. Hmm. On présente ça un peu plus tard dans l'émission. Et évidemment, notre jeune collaboratrice Jade Pernin a été voir un film pour nous aussi un peu plus tard dans l'émission. Mais en attendant, quelques nouvelles, André-Jean.
Oui, écoutez, on apprend... en fait, j'ai appris tout récemment, en fait, et c'est une nouvelle historique. J'aimerais ça le spécifier.
Rien de moins.
Que le film, en fait, des courts-métrages fauves réalisés par Jérémy Comte ainsi que Marguerite de Marianne Farley, qui sont toutes deux finalistes dans la catégorie du meilleur court-métrage de fiction aux Oscars. C'est la première fois, en fait, de l'histoire que deux films québécois se retrouvent dans la prestigieuse liste des 5 meilleurs courts-métrages de l'année. Fauve, en fait, raconte l'histoire de deux garçons qui s'enfonce dans un jeu de pouvoir malsain sur le site d'une mine à ciel ouvert avec la nature comme seul témoin. Marguerite, par opposition, en fait, raconte l'histoire d'une dame âgée et de son infirmière qui développe une amitié poussant celle-ci à déterrer des désirs et passions inavoués et ainsi faire la paix avec son passé. La 81e cérémonie des Oscars, donc, qui est organisée par l'Academy of Motion Pictures Art and Science, aura lieu le 24 février prochain, donc 2019, bien sûr, hein, au Théâtre Dolby de Los Angeles. D'ici là, bien sûr, le public aura l'occasion de voir le tout sur grand écran. En fait, tous les courts-métrages qui ont été nommés, bien sûr, devraient être accessibles au Cinéma du Parc à compter du 8 février prochain. Cinéma du Parc, qui est bien sûr un site...
À Montréal, en fait.
Oui, ils ont aussi un site Internet, donc il y a possibilité de les suivre. Oui. Et ce, donc, tous les courts-métrages de la catégorie en question seront disponibles, comme je l'ai dit, à partir du 8 février.
Ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, un réalisateur cherbourquois dans les films en nomination. Donc, tout ça est extraordinaire. Merci, André-Jean. Mélina.
Oui, en fait, moi, vous connaissez ma passion un peu pour Harry Potter, hein, j'en parle un peu des fois, ça m'arrive.
J'ai eu vent d'eux.
Oui, c'est ce que je me dis, en fait. Ben, il semble que Netflix Canada a aussi eu vent de ma passion, puisqu'ils ont décidé d'amener sur Netflix, évidemment, les 4 derniers films de la série de films Harry Potter, donc le film numéro 5, 6, le 7 partie 1 et le 7 partie 2. Qui sont disponibles sur Netflix depuis le 1er février, hein? Et donc, c'est ça, voilà, ça l'a fait plusieurs heureux. Plusieurs personnes sont fâchées également que les 4 premiers films soient pas là, parce que...
Non, mais je pense probablement que les droits ne sont pas au
mais
même...
Exactement, on explique que c'est une question de droit territorial. Bref, moi, ça me rend très heureuse. Et comme j'ai vu quelqu'un commenter, êtes-vous vraiment un vrai fan d'Harry Potter si vous n'avez pas déjà ces films en DVD chez vous? Donc, pourquoi se fâcher contre Netflix s'ils ne mettent pas les 4 premiers alors que vous devriez les avoir à la maison?
Oui, mais voilà. J'oserais dire, oui, peut-être on les a-t-on en DVD, mais la qualité DVD est inférieure à celle de Netflix. N'oublions pas cette chose. Et la version Blu-ray, ben pas tout le monde a un Blu-ray, malheureusement.
Et puis tout le monde a de lecteur DVD non plus.
Mais c'est aussi possible de simplement pas être des fans assez finis, mais de juste aimer chialer. Ce qui n'est pas tout à fait justifié, on va se le dire.
C'est tout à fait réel, oui, tout à fait. De mon côté, je vais vous parler d'un sujet très léger. Je vais vous parler d'une nouvelle que j'attends en fait avec impatience depuis près d'une décennie. pas moins. Et je vais vous parler en fait de Kaamelott. Donc la série humoristique produite pour la télévision française dans les années 2000 et qui dépeint les aventures des Chevaliers de la Table Ronde. Son créateur, Alexandre Astier, a annoncé le début imminent du tournage du film Kaamelott, donc le premier probablement d'une série de 3 qui suivra la série télévisée. Après une véritable saga qui entourait les droits, Alexandre Astier, dont son dernier film, donc Astérix et le secret de la potion magique, va être en salle dans quelques semaines chez nous, il est déjà en France, mais il a finalement pu, après plusieurs années de niaisage, reprendre le contrôle de ses idées et de son matériel, et après une bonne année à chercher du financement, bref, Kaamelott, le film devrait se faire. Alexandre Astier, qui est en plus de jouer le rôle principal du roi Arthur, est scénariste, a réalisé la série, compose la musique, fait à peu près tout, c'est un homme orchestre. Ben, le film devrait sortir en 2020. Il va être tourné avec une caméra Alexa 65, donc totalement hors de mon budget, et qui promet des images extrêmement magnifiques, donc remarquables. Ce sera le premier volet d'une potentielle série de 3 films, voire plus ou voire moins, mais comme Alexandre Astier l'avait souvent dit en entrevue, si le premier ne lève pas, il n'y en aura pas d'autre. Donc à vous les fans d'aller visiter le film souvent. Et évidemment, comme toute bonne nouvelle emporte une mauvaise, une annonce trompeuse d'un site de recrutement de figurants a volé la bonne nouvelle entourant le film en provoquant une confusion générale avec un faux message qui invitait les gens à un recrutement de figurants pour le casting. Alexandre Astier a répondu par Twitter: nous n'avons pas besoin de figurants pour Kaamelott. Surtout, ne payez pas un centime à quiconque vous proposerait d'en être. Désolé que des trouducs essaient de se sucrer sur le dos de la bête. On va s'en occuper. Donc, on voit le personnage en action, toujours avec son style très lyrique. Mm-hmm. Et donc, le fameux film Kaamelott, c'est pour quand? Pour 2020, si tout se passe bien.
Oh yeah!
Voici votre Cinébrunch! André-Jean,
oui.
Tu as été voir le film Vert.
Tout à fait. En fait, Glass, hein, pour la version anglaise, ce film, ma foi, d'action, science-fiction, suspense, américain bien sûr, à la Maison du cinéma depuis le 18 janvier, réalisé par le monsieur M. Night Shyamalan, un Américain, malgré, malgré ce qu'on pourrait penser.
Asiatique, là.
Non, acteur et réalisateur, en fait. Connu, entre autres, qui, lui, a une joyeuse liste. Là, j'aurais pu en nommer plusieurs. Certains se rappelleront peut-être, je m'excuse de la version anglaise, là, de Last Airbender en 2010. On reste dans le fantastique. Là, j'ai pris des films qui sont restés dans le fantastique un peu. Ou le fameux film avec, voyons, comment s'appelle-t-il? Will Smith. After Hurt en 2013, où on le voit là, avec son fils. Où on fait, bon, il y en a, comme je te dis, toute une joyeuse panoplie. En fait, là, je reviens à Glass, ou excusez-moi, Vert, qui a une joyeuse brochette d'acteurs. Hein, James McAvoy, le fameux l'Écossais, en fait. Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson.
Des gros noms, là.
Oui, une anglo-argentine, Anya Taylor-Joy, et le fameux américain toujours aussi, Spencer Treat Clark. Donc, un joyeux film dont je vous inviterai, comme nous, à écouter la bande-annonce.
Je travaille sur une forme particulière de mégalomanie. Je suis spécialisée dans le traitement des patients qui se prennent pour des super-héros.
Et pourtant, c'est vrai. Mes os se brisent facilement. J'ai eu 94 fractures dans ma vie.
Mais vous avez un QI exceptionnel.
Et pourtant, certains d'entre nous ne meurent pas sous les balles. Certains d'entre nous sont capables de tordre l'acier. J'ai hâte que le monde sache enfin.
Oh, on se croirait dans un Marvel.
Ben, écoute, c'est effectivement un peu dans le thème. Je vous envoie le synopsis et puis je clarifie un peu la chose. Hein. Capturé après avoir neutralisé un ravisseur de deux jeunes filles, dotées de personnalités multiples, un super-héros est incarcéré avec ce dernier dans un institut psychiatrique. Et, il retrouve une vieille connaissance, un mystérieux super-vilain aux os fragiles comme le verre. Hein.
D'où le nom Glass. Okay.
Monsieur Verre ou Monsieur Glass Mr. Glass en anglais. Donc, en fait, effectivement, on aborde le thème du super-héros. Le réalisateur, en fait, termine sa trilogie en ramenant 2 supra-humains de films déjà réalisés auparavant, soit The Unbreakable en 2000, ou plutôt L'Incassable, et un autre film de super-héros officiel, en fait, et Split ou Divisé, qui date de 2016, un trailer d'horreur psychologique. Donc, d'où l'individu personnalité multiple. En fait, idée très originale, réalisée d'une façon ingénieuse. À mon point de vue, on est dans le plaisir. Effectivement, on aborde le thème des super-héros de façon, on va dire, assez profonde, mais en même temps accessible. On est dans notre monde, là. Hein? Il n'y a rien de spécial, okay, etc. Et on voit effectivement des gens qui manifestent des capacités qui n'ont pas de sens. En fait, dans le cas de The Unbreakable ou de l'Incassable en particulier, finalement, qui, avec son fils, vont se promener et tenter de libérer la ville de différents types de malfrats. Et en parallèle, bon, on suit aussi cette espèce de personnage qui, à la base, semble plutôt comme une espèce de psychotique jusqu'à ce qu'on voit une de ses personnalités qu'il nomme la bête ou The Beast. Et là, il manifeste carrément des aptitudes qui sont inexplicables. Mais on reste encore là dans un contexte très, très réaliste, très terre-à-terre, très... j'ai été surpris, en fait, de voir à quel point on garde... On n'est pas dans le Marvel, on n'est pas dans le DC Comics. C'est ça. Ça m'a juste... En fait, ça m'a totalement donné le goût d'aller voir le film de 2000, là, L'Incassable, okay. Et le divisé de 2016. J'aurais pas le choix, en fait, de faire le tour parce que c'est un réalisateur qui fait dans le... Dans le spécial, toujours. C'est-à-dire qu'il y a d'excellentes histoires, il y a des bons scénarios, mais il y a toujours une partie très... soit science-fiction, inexpliquée, en tout cas, dans le paranormal ou dans le très weird d'un scénario standard. Mais souvent, ça va être des scénarios... J'ai d'autres films que je n'ai pas nommés dans sa série, mais c'est souvent un setup de base très accessible à tout le monde et dans lequel on évolue là, et les choses prennent souvent une tournure un petit peu, un peu, mais totalement funky, si je peux me permettre l'expression. donc, il y a une suite. Bon, si je reviens au film qui m'intéresse, finalement, divers types de plans de caméra, en fait, qui servent très bien les ambiances de tension, comme autant dans les situations de combat que dans les moments plus calmes. Il y a des jeux de caméra que j'aurais jamais pensé voir. Bon, des fois, on en voit différents types plus ou moins questionnables dans différents mimes sur YouTube. Mais dans ce cas-là, ça se prête assez bien quand même dans des scènes de combat, entre autres. Là, il y a des caméras fixées sur les acteurs. En tout cas, des choses vraiment qui nous sortent aussi du film. Ça. Oui, puis c'est pas trop lourd. C'est bien amené. Ça coule bien dans le processus. Ça nous ramène, en fait, dans le... C'est un peu comme du... on dit caméra à l'épaule, là, mais portée au niveau de la taille, si je me rappelle bien, au niveau
dans l'action. Là.
Très, très action. Oui. Une trame sonore aussi qui appuie très bien chaque scène. Honnêtement, je trouve qu'il y a une finesse dans la façon d'agencer ce film-là. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Je n'ai pas fait de recherche plus exhaustive, en fait, sur le temps de tournage. Jeu d'acteur, ben, on a vu la brochette. Hein, un jeu d'acteur impressionnant. Comme quoi, il ne s'agit pas seulement d'une bonne idée de scénario, là, ramener ces deux films-là. Il y a vraiment quelque chose, là, les acteurs se donnent de façon assez joyeuse. Et au niveau de la mise en situation, du développement de l'intrigue, c'est très bien ficelé. Une finale qui est surprenante, hein, parce que une fois qu'on sait certaines affaires, on se dit « Ah, ben, il y a seulement une fin possible, qu'est-ce que ça sera? » Mais non, nous-mêmes, comme tous les détracteurs dans ce film-là, vont se retrouver surpris de la tournure de l'événement.
OK, donc ils réussissent à, disons, outrepasser ce problème.
Ben, en fait, ce problème ou cette... quel est le problème réel? Parce qu'en fait, on se fait jouer par Monsieur Vert aussi.
Il joue avec Mr. Émotions, Glass. Ou il joue avec...
Avec notre esprit, en fait. Esprit. Il finit par nous faire croire. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ça, on reste dans l'ambiance, l'univers comique, même si on n'est pas dans le DC, dans le Marvel, on a tous l'impression que dans le fond, tout cet épisode à l'hôpital psychiatrique, ça se trouve être comme une espèce de showdown final, finalement. Et en fait, je ne vendrai pas le punch, mais ce n'est pas ça. Il s'est joué de nos esprits comme il s'est joué de ses...
Mais peut-être que tu te joues de nos esprits en ce moment et que c'est ça, en fait.
Regardez, je vous laisserai en juger. Allez, honnêtement, c'est un film, à mon point de vue, allez voir. Même si vous êtes... Surtout, en fait, si vous n'êtes pas du type film de super-héros... parce qu'en fait, on en parlait, là, les Marvel, DC... Ça prend une espèce de mindset, excusez-moi. Ouais. Ça prend un état d'esprit pour aller voir ça qui nous... dans lequel on dit, ben, j'accepte la prémisse de base, hein. Il va avoir de la caricature, il va avoir de la surconfiance en eux. Tu sais, il y a des personnages, des fois, qui sont très gros.
Vous
m'avez entendu parler de Aquaman, tu sais, où on s'attend que le bonhomme fasse soit un peu show-off, etc.
Stéroïdé.
Bien sûr, là, mais là, après ça, est-ce qu'il y a des retouches? Hein? On s'attend à tout ça, en fait, là, autant au niveau des effets spéciaux et tout. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. On reste très ancré dans une réalité. Et c'est là aussi où on se fait jouer. Hein? D'abord, on pense que c'est la fameuse psychiatre en question. En tout cas, je ne veux pas trop en donner parce que ça m'a pas mal stimulé dans le sens où je peux dire aux gens qui ne sont pas des adeptes de films de super-héros, vous ne vous ferez pas briser. Vous ne trouverez peut-être pas c'est sensationnel comme film, mais vous allez avoir du plaisir à le regarder parce que Parce que c'est basé sur des faits standards qu'on a tous entendu parler de la petite madame qui a eu un accident, son enfant se retrouve pris dans le véhicule, elle doit lever le véhicule et elle réalise le fait simplement sur une charge d'adrénaline. Bon, il y a des choses qu'on a vérifiées au niveau de la science.
Plus de force qu'on pensait.
En état de crise, le corps humain peut faire des choses phénoménales. Ça a déjà été observé, excusez-moi. Mais par contre, on ne tombe pas dans l'extrême, sauf que c'est imprégné de ça. Donc, on reste dans le très, très... comment je pourrais dire... on reste dans l'accessible, ce qui va plaire donc à une clientèle qui veut rien savoir de DC ou de Marvel, les séries, là, je parle. Enfin, on perd... c'est tellement bien agencé, tout ça, qu'à mon point de vue, on perd la notion du temps. C'est un film quand même de 2h09 hein, qui passe sans que je m'en... En tout cas, moi, dans mon cas, ça s'est passé sans que je m'en rende compte. J'ai été... comme je vous dis, agréablement surpris, parce que normalement, à 2h et quelques, le film, je commence à me regarder la montre à un moment, tu sais. Et là, ça n'était pas le cas pantoute.
Ça passait vite, c'était... Okay.
Ben, on est pris dans le développement des personnages qui se passent, mais dans lequel on ne donne pas tout. Donc, on reste assoiffé un peu. Et là, tout de suite, paf, alors qu'on pense que ça va aller vers autre chose, on tombe dans le développement de l'intrigue exactement. Comment vont-ils sortir? Vont-ils être aptes à sortir de cet hôpital psychiatrique? Hein? Parce que ici, c'est pareil comme aux États-Unis. Je veux dire, lorsqu'on est dans un hôpital, on nous enlève tous nos droits. Donc, on est un peu... c'est inaccessible de sortir de là, même des gens de l'extérieur qui veulent bien, tant que tu n'as pas eu d'évaluation cool de la part de ton psychiatre, tu vas y rester. J'ai été surpris, finalement, le temps a passé, a filé comme si de rien n'était, jusqu'à la fin, en fait.
C'est agréable, ça.
Ben, totalement. Oui. C'est pourquoi, au total, j'ose sans hésitation donner une note de 9,5 sur 10.
Oh, c'est une énorme note!
Écoutez, j'ai été flabbergasté. Pour un film comme ça, et peut-être aussi parce que je suis, comme je vous dis, je suis peut-être biaisé là, parce que moi, je peux me mettre aisément dans l'état d'esprit, allons voir les super-héros, même si j'ai pas été un gars qui tripait sur les BD softcover, comme on se permettait l'expression lorsqu'on était plus jeune. Même si c'est accessible pour moi d'aller voir la série Marvel, DC qui commence, etc., c'est tout à fait accessible. Ça l'est peut-être pas pour tout le monde, et celui-là, ben, c'est pour vous. Faites-vous plaisir. Allez-y pas avec du préconçu. Allez-y simplement pour voir un film et vous allez avoir du plaisir, c'est sûr. Là. Ça a l'effet divertissant attendu. Là.
Merveilleux. 9,5. Un film pour tous, donc, André-Jean.
Oui, clairement.
Merveilleux. Merci beaucoup.
Merci.
Plaisir.
André-Jean et chers auditeurs, parce qu'il n'y a pas que nous qui critiquons des films, mais Nina et moi, on est allés rencontrer Jade Pernin, notre jeune collaboratrice, qui a critiqué pour nous un film bien spécial.
Oui, le film L'incroyable aventure de Bella.
Bonjour, je m'appelle Jade Pernin, j'ai 12 ans et je suis allée voir le film L'incroyable aventure de Bella au cinéma.
Je m'appelle Bella. Voici comment j'ai rencontré Lucas.
Elle t'aime beaucoup, on dirait.
Ça veut peut-être dire que je devrais l'emmener chez moi. Salut, maman.
Salut, maman. On jouait à la balle et on jouait à Ne mâchouille pas les chaussures.
Bella, ne mâchouille pas les chaussures.
C'était son jeu préféré.
Donc, Bella, ben, c'est une fille et c'est un chien. C'est un pitbull. Fait que là, elle n'a pas le droit d'être dans la résidence. Donc, la petite amie du maître de Bella, son oncle et sa tante, ils viennent chercher Bella pour l'emmener dans une ferme où elle a le droit d'être, comme c'est un pitbull. Et là, les maîtres, ils étaient supposés venir la chercher, mais le jour où ils venaient la chercher, elle s'est enfuie parce qu'elle voulait aller voir ses maîtres.
La vie avec Lucas était merveilleuse, mais quand il n'était pas là, il me manquait terriblement. L'écureuil est revenu! Je vais t'avoir, l'écureuil!
Elle a un peu peur, puis elle est très triste, elle voudrait vraiment retrouver son maître. Puis durant tout le long, elle rencontre des autres personnes, des amis très spéciaux, je vais pas dire qui.
On rencontre tous des épreuves un jour ou l'autre. Et ce qui nous permet de les surmonter, ce sont les personnes qui nous sont chères. Et je n'ai pas l'intention d'abandonner avant de les avoir retrouvées.
Il était très bon, le film. J'ai trouvé ça très émouvant. Moi, c'est sûr que si je perdrais ma famille, je serais très triste. Puis j'essaierais de faire tout pour les rencontrer. Parce qu'elle essaie de retrouver son mat, puis elle n'y arrive pas. Ben, peut-être qu'elle y arrive, peut-être qu'elle n'y arrivera pas, mais pendant tout le film, elle le cherche.
J'étais très loin de la maison, mais je savais que Lucas m'attendait. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que ce ne sont pas les petites choses qui comptent. Ce sont les choses minuscules.
Oh, tu veux un minuscule morceau de fromage, c'est ça?
Oui, oui, le fromage, c'est toute ma vie.
C'est vrai que c'est un film pour tout âge, mais c'est aussi un film pour les adultes. De 1 à 10, je pense que je le noterais genre 8,5. Je recommanderais le film, il est vraiment très très bon.
Donc merci Jade Pernin pour cette critique du film
L'incroyable aventure de Bella. Oui, voilà. Avec la petite musique qui reste dans la tête. Oui.
Oui, alors vous allez être coincé avec ça pour le reste de la journée, je suis persuadé.
Alors merci à notre jeune collaboratrice Jade.
De mon côté, cette semaine, j'ai été voir un film bien spécial. Le film s'appelle La Guerre froide. C'est un des films nominés pour les Oscars. C'est une collaboration Pologne-France-Grande-Bretagne, donc un drame polonais de Paweł Pawlikowski, qui ne fait que des films d'auteur et qui nous avait donné le film Ida il y a quelques années, mais aussi La femme du cinquième et My Summer of Love. C'est un excellent réalisateur, le genre qui peut faire que ce qu'il veut. Au niveau des acteurs, l'actrice Joanna Kulig, tout à fait troublante et qui a déjà joué pour ce réalisateur-là à plusieurs reprises, ainsi que Thomas Scott, qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui fait une assez belle job dans ce film. Donc on écoute la bande-annonce du film La guerre froide. Merci, merci, merci. Donc oui, une bande-annonce donc 100% musicale, il n'y a pas de dialogue dedans. Et c'est peut-être parce que dans le film, il y en a peu de dialogue aussi. Donc je vous propose de vous raconter rapidement l'histoire donc, de ce film La Guerre froide. L'histoire commence en Pologne vers la fin des années 40, donc peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale. Et alors que progressivement, la Russie de Staline joue un rôle vraiment très important en Europe de l'Est et contrôle notamment la Pologne. Le pianiste et chef de chœur Victor travaille pour une troupe qui arrange des chants traditionnels et populaires pour en faire des spectacles grandioses. Alors que Victor fait passer des auditions pour de jeunes choristes, il rencontre Zula, une jeune femme plus troublante pour lui que talentueuse. Ils développent rapidement un amour l'un pour l'autre. Alors que les années passent, la vie s'oppose systématiquement à leur amour, mais peuvent-ils vivre l'un sans l'autre? C'est moi qui ai composé, là. Donc, alors d'entrée de jeu, je dois vous dire que j'aime énormément le cinéma polonais. Je trouve que c'est un cinéma qui est troublant, plus réel que bien d'autres cinémas, parfois plus réel que le réel même. Je pense à notamment à le film Katyn, entre autres, ou le vieux film Cendres et Diamants. Maintenant, ce film-là, La Guerre froide, n'y fait pas exception. Il est excellent sur pas mal tous les points. La dimension politique du film est vraiment intéressante aussi. J'aime énormément, mais énormément, le choix de photographie du réalisateur. C'est sublime et en noir et blanc en plus, c'est encore plus magnifique. Un style de réalisation très intéressant avec un cadrage atypique et qui fait un peu penser à des plans de Xavier Dolan. parfois. Donc, il emprunte au film d'horreur ou au film d'action d'une espèce d'effet de surprise avec des transitions sonores très fortes et surprenantes, donc inattendues. Les choristes sont bons, les voix sont merveilleuses, la musique envoûtante, une qualité d'enregistrement vraiment unique. On oublie très rapidement les sous-titres et on embarque facilement dans cet univers 100% polonais. Oui, disons 80% polonais, 20% français, mais dans tous les cas, donc on embarque dans cet univers-là. Et en fait, si je cherche une lacune à ce film-là, au film La Guerre froide, c'est son titre un peu trompeur, en fait. Mm. Sa description aussi, mais surtout, probablement surtout la bande-annonce, qui n'a aucun dialogue, qui peut laisser croire que c'est un film du genre film de guerre ou un film où un couple tombe en amour pendant la guerre. Mais c'est absolument pas ça. Et bon, on sait que La Guerre froide, c'est pas une guerre typique non plus, mais... Il y a beaucoup de références à l'époque où Berlin est divisé. On est dans un univers où il y a une espèce de contrôle de l'État, des choses comme ça dans ce monde-là qui existe encore à certains endroits dans le monde. Mais bref, on entre dans cet univers-là vraiment profondément. C'est parfois aussi un film extrêmement contemplatif et qui montre beaucoup plus de non-verbal que de verbal. Je pense notamment la salle était presque pleine quand je suis allé voir le film La Guerre froide et franchement la salle ne semblait pas tant satisfaite du film, donc j'ai pas sondé là, mais de ce que j'entendais, beaucoup de soupirs, de l'agitation, les gens s'ennuyaient un peu et je pense que c'est parce qu'ils étaient pas venus pour ça. Je pense qu'ils étaient venus pour ce qu'ils pensaient que le film allait être, alors que c'était pas du tout ça. Moi, j'avais pas d'attente précise et franchement, j'ai adoré le film. Une belle courbe d'intensité durant le film, une fin comme je les aime. Bref, c'est vraiment un très bon film, La Guerre froide. Je donne 8,5 sur 10 au film. Et si vous voulez d'ailleurs voir un autre excellent film du même réalisateur, le film Ida, dont j'ai parlé un peu plus tôt, je l'ai vu aussi ce film-là, c'est très très bon. C'est l'histoire d'une jeune religieuse qui n'a pas encore, officialisé ses vœux, ces choses-là. Et c'est donc une jeune religieuse orpheline qui découvre qu'elle est juive et qu'elle a une tante et qui est une juge frivole et qui sait comment avoir tout ce qu'elle veut. Elle part avec sa tante à la recherche de ses parents décédés. Un autre excellent film, là, Ida, là, si vous voulez, si vous arrivez à trouver ce film-là, c'est extrêmement bon. Et donc, un réalisateur franchement à suivre, là, difficile à prononcer, mais vraiment très bon. Il s'appelle, j'essaie de retirer son nom, Paweł Pawlikowski. Donc, franchement, un réalisateur polonais extraordinaire. Il a fait d'autres films que j'ai pas vus, donc La femme du cinquième, ces choses-là. Je pense que si vous voulez vous lancer dans cet univers-là, vous le regretterez pas. C'est très, 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 très beau à voir. C'est très bon. Donc, voilà, je donne donc, comme je vous l'ai dit, 8,5 sur 10 au film Excellent. La Guerre froide. Et ce n'est pas un film de guerre.
Il faut savoir que c'est un des films qui est en nomination présentement pour le film, l'Oscar du meilleur film
étranger. C'est ça. Et franchement, je sais, il y a beaucoup d'excellents films en nomination, donc ça va être à vérifier, mais...
Ça va être tendu aux Oscars.
Il y a quelque chose de beau là-dedans. Là. Donc, à suivre.
Merci, Jim.
Mais de rien. Vous écoutez toujours Cinébrunch en compagnie de Jim Boulay, Mélina Lopez-Nadeau et André-Jean Rouleau. Et dans quelques minutes, on aura la chance de jouer à un nouveau jeu, en fait, vrai ou faux. On va savoir la vérité sur certains films basés sur des faits vécus. Est-ce que les faits sont réels ou des inventions pour la fiction? C'est ce qu'on va savoir un peu plus tard. Mais en attendant, Mélina, tu as été voir Lola et ses frères.
Oui, donc la comédie dramatique française Lola et ses frères du réalisateur Jean-Paul Rouve. C'est un scénario de donc Jean-Paul Rouve. Mais également de David Fuenquinos. Donc, c'est la deuxième collaboration entre les deux. La première, c'était le film Les Souvenirs, un film qui est sorti en 2015 et qui était adapté donc d'un roman de David Fuenquinos. Et donc, les trois acteurs principaux dans ce film, on a Ludivine Sagné qui joue Lola, Jean-Paul Rouve donc qui joue Benoît et José Garcia qui joue le rôle de Pierre. Donc, l'histoire, c'est un peu... Ça va comme suit, en fait. Lola a deux frères, Benoît qui se marie pour la troisième fois et Pierre qui débarque en retard au mariage. Excuses, reproches, engueulades, brouilles, chacun essaie de vivre sa vie de son côté. Benoît va devenir père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoère alors qu'elle s'occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes professionnels s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables. Donc on va aller écouter la bande-annonce.
C'est parti.
Pierrot, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi, s'il te plaît.
Alors?
Répondeur.
Ah non, mais c'est pas vrai. C'est bien ton frère, ça, hein?
Parce que c'est pas ton frère, peut-être?
Oui.
Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra?
Sarah.
Sarah?
Si, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse.
Ouais, non, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi.
La famille va s'agrandir.
Oh, génial.
Ah bon, mais qui? Bah, tu vois, toi aussi, tu peux faire des gaffes.
Ben, ça a l'air quand même sympathique.
Ça a l'air très sympathique comme film. Je suis rentrée en me disant aussi ça a l'air sympathique. Oh! C'est pour ça que je suis allée le voir. Okay. Bon.
Ça sonne le changement de vision, là.
Ben, non. J'ai aimé ça quand même, mais il manquait quelque chose au film. Hein? Il manquait un ingrédient, je sais pas nécessairement lequel, on va découvrir ça au fur et à mesure de ma critique. Mais c'était un peu comme un super beau cadre, mais sans photo à l'intérieur. Ou bien un pain qui lève pas. Ou vous voyez, il manquait le petit élément magique.
Un sundae sans cerise, une forêt sans écureuil.
C'est ça, toutes ces choses-là, voilà, un sundae sans cerise, hein, c'est pas un sundae. Donc, sérieusement, au niveau de l'histoire, j'ai eu l'impression d'attendre pendant tout le film que l'histoire décolle. Donc ça, généralement, c'est mauvais signe.
Ouais.
Pourtant, on voit plusieurs situations qui se déroulent dans le film. On entend dans la bande-annonce, bon, au mariage, Pierre qui se trompe ou qui oublie carrément le nom de la femme de son frère. Bon, ça crée une situation, il y a un froid. Donc, il y a peut-être 7-8 situations comme ça qui vont se dérouler dans le film. Mais on reste toujours en superficie de ces histoires-là. Donc, on dirait plutôt un genre d'amalgame d'anecdotes plutôt qu'une histoire. On voit donc, comme je disais, différentes situations. Ça se passe peut-être sur 2-3 ans, mais c'est jamais clair. Il y a beaucoup d'ellipses dans le film. On fait des sauts dans le temps, mais on le dit jamais vraiment qu'on fait des sauts dans le temps. Donc, on les voit un jour, la femme est enceinte, puis on les voit tout de suite après, puis là, elle est rendue, elle a accouché, puis elle est enceinte du deuxième, mais on sait pas ce qui s'est passé entre ces moments-là. Et je pense que des fois, dans le film, c'est ces moments-là qu'on aurait dû voir. C'est comme si on nous montrait pas vraiment ce qu'on aurait voulu voir, on nous montrait un peu l'inverse. Donc, c'était un peu bizarre pour ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vous dis, bon, il y a comme 7-8 petites situations ou anecdotes qu'on explore dans le film, mais c'est que chacune de ces situations-là aurait pu faire un film à elle, ou presque. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un film sur la difficulté d'une femme qui souhaite avoir des enfants puis qui apprend qu'on peut pas en avoir. Mais là, on va explorer ça en surface, une quinzaine de minutes, mais c'est tout, sans jamais rentrer dans le profond de la chose. Donc, j'ai pas vécu d'immersion. J'avais pas l'impression d'être dans une histoire. J'avais l'impression, je sais pas, peut-être un petit livre de contes ou je sais pas quoi, mais il manquait quelque chose au niveau du scénario. Vraiment, comme je disais, donc on reste trop en superficie pour rentrer dans l'émotion. On s'éparpille un peu. C'est sûr que, à part ça... C'est sûr que le film était bien.
À part ça...
Mais c'est ça, à part ça...
Ça va pas, là.
Ça va pas, exactement.
Non, mais en même temps, c'est peut-être parce que le thème que toi, tu t'attendais, tu cherchais une immersion, mais en réalité, peut-être que tout tourne autour de leur relation, parce que si on va jamais dans le profond de leur vie privée, donc on n'aborde pas un thème particulier... C'est peut-être juste plus leur relation, tu sais, comme tu le dis dans la fin du synopsis, ces trois-là, tout devrait les séparer, mais... Oui. Ils ne sépareront pas. Exactement. Parce qu'ils sont intriqués, ouais, ensemble. Donc, c'est plus le thème, c'est la relation. Ça, de... Ouais. Je ne sais pas, en fait. C'est peut-être juste une espèce de miss...
Mais c'était ça l'idée, en tout cas.
Un tir manqué ou...
Oui. C'était ça l'idée, en fait. Mm-hmm. C'était vraiment d'explorer les relations frères-sœurs, c'est-à-dire des gens avec qui tu as une relation, généralement, où tu es très proche et c'est un peu malgré toi. Des fois, c'est des gens que tu ne serais pas ami avec eux dans la vraie vie, mais bon, comme ces trois-là, en fait. Je pense qu'effectivement, c'était ça l'idée. Derrière le film, sauf que pour moi, ça l'a pas réussi. Peut-être qu'il manquait peut-être un manquait peut-être un fil conducteur à travers tout ça, ou je sais pas, il manquait quelque chose. Donc, comme je vous le disais, il manquait la cerise, il manquait la photo dans le cadre, il manquait les écureuils dans la forêt, bon. il manquait vraiment quelque chose, mais bon... Il y a des bonnes blagues, il y a des situations comiques, comme on s'entend quand il se trompe au mariage de son frère, ça c'est quand même, c'est cocasse. Hein? mais c'est un film qui est léger, mais sans être drôle comme une bonne comédie française. Fait que c'est trop léger pour le genre, parce qu'on parle d'une comédie dramatique, mais c'est trop léger, il n'y a pas vraiment le côté dramatique, on le perd trop rapidement parce qu'on rentre pas dans les situations.
Okay.
Mais on n'a pas le côté drôle qui fait que...
on n'a pas le yo-yo émotionnel qu'on peut avoir dans certaines comédies dramatiques.
C'est ça.
Okay.
Comme on dit, ah, j'ai vu une super bonne comédie française, tout le monde sait un peu de quel genre de film que je parle. Là, c'était pas ça, on rentrait pas dans la comédie.
Pas assez dans le drame, pas assez
c'est
dans...
C'est ça. Okay. Comme un film qui s'assume pas tant, vraiment.
Okay.
Peut-être que c'est dû au fait que le scénariste, ben, c'était Jean-Paul Rouve et David Finkinos, lui, il écrit des livres. Donc, c'est peut-être pas un vrai scénariste. Donc, l'art d'écrire un scénario, c'est quand même un art. Il y a quand même...
Ouais, on s'entend.
Donc, peut-être que c'est ça. J'ai été un peu déçue, mais au moins, les acteurs sont très bons, sont très crédibles. Ils livrent des belles performances. Fait intéressant, Jean-Paul Rouve qui réalise le film et qui joue dedans n'était pas censé jouer le rôle de Benoît. Le tournage a été reporté. L'acteur qui était censé interpréter ce rôle-là n'était plus disponible à cause de ben, vous savez comment ça fonctionne.
C'est comme ça que ça marche, le tournage. Ouais. Puis, mais c'est peut-être un peu ça aussi qui s'est passé. Là.
Peut-être que c'est ça qui s'est passé. Je ne sais pas.
Changer d'acteur, ben c'est drôle parce qu'on l'a vu avec le film québécois Impétus
la semaine dernière. Ouais.
Des fois, ça peut se tourner à notre avantage. Je suis pas mal certain que le film Impétus ne visait pas à être aussi intense à son origine. Je suis pas mal certain je pense que tout ça est apparu parce qu'il y a eu un changement d'acteur puis ils ont réussi à jouer avec ça.
C'est ça.
Mais peut-être qu'eux ont essayé puis ça n'a pas fonctionné parce que justement, ils sont restés ils ont gardé le cap, mais ça ne marchait pas parce que c'est pas le même acteur. Parce
c'est
que
ça. En même temps, lui, il a dit « j'avais pas le temps de caster, j'avais pas le temps de trouver quelqu'un d'autre pour faire pour reprendre le rôle. » Et comme j'étais réalisateur, je connaissais déjà le rôle, donc la solution, c'était que je reprenne le rôle. C'est ce qu'il a dit, en fait. Mm-hmm. C'est ce qu'il a fait. Il le fait très bien. Le problème, c'est pas les acteurs.
Acteur, c'est ça.
C'est ça. Le problème, c'est vraiment le scénario au niveau de la photographie. On pas grand-chose non plus, donc si vous êtes des fans, allez-y, sinon...
Mais moi, j'aime bien Jean-Paul Rouve, je l'ai beaucoup aimé dans Nos jours heureux, je l'ai beaucoup aimé dans
Le sens de la fête,
extraordinaire ce film-là. Bon, après, au niveau scénaristique, là, peut-être que ça vole moins haut, mais en tout cas, c'est décevant.
Je suis pas contre, moi, une fois de temps en temps, me promener dans une forêt sans écureuil, et même, j'irais jusqu'à pousser l'extrême, prendre un sundae sans cerise. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé.
Écoute, moi, on m'a déjà servi un drink qui avait des cerises sans cerises, alors je me dis, tout est possible.
Tout est possible, donc je vais vous donner une note pour ce film. Donc, le film Lola et ses frères, présentement à l'affiche, lui donne un petit 6 sur 10. Donc, c'est un peu triste, mais voilà, c'est ce qu'il
mérite.
C'est
pas venu te chercher.
Non, c'est des choses qui arrivent. Mais regarde, c'est pas la fin du monde. Hein. Et il va se relever les manches et il va faire un autre film.
Exactement.
Ben voilà.
Merci, Mélina.
Merci, Mélina. Merci. Alors, nouveau jingle pour une nouvelle rubrique que je vous propose, en fait, qui pourrait revenir occasionnellement, mais qu'on améliorera au fil du temps, selon vos commentaires, chers auditeurs, et vos commentaires, chers co-animateurs, qui n'étiez pas au courant de tout ce projet.
Surprise
de ma part. Donc, voilà. Comment ça fonctionne? En fait, la rubrique s'appelle « Vrai ou faux » et « Oui ou non », selon ce que vous choisissez. Et dans le fond, tout ce que c'est... Le concept, c'est de prendre des films qui sont basés sur des faits réels, des films qu'on a vus, soit tous, soit quelques-uns d'entre nous, et de vérifier si les faits sont bien réels dans le film. En fait, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Maintenant, vous devez savoir que la quasi-totalité des informations qui seront révélées viennent directement du site History vs. Hollywood, dont je vous ai déjà parlé dans une émission précédente. C'est une magnifique référence, ce site-là, pour comparer donc les faits réels et la fiction du cinéma, mais je vous propose de vous donner un petit avant-goût de ce que vous pouvez y trouver. Et donc, j'ai choisi des films que vous avez vus et je vais vous poser des questions. Je vais commencer avec André Jean, en fait.
Oh, surprise!
Alors, dans le film, premier film que tu as vu depuis que tu es avec nous à Cinébrunch, le film First Man, qui met en vedette Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong, où on parle évidemment du premier...
Apollo 11.
Apollo 11, voilà. Alors, on on parle de l'incendie qui a atteint la maison des Armstrong. Alors, d'après toi, André-Jean, est-ce que la maison de Neil Armstrong a vraiment passé au feu, oui ou non?
C'est difficile. J'aurais tendance à dire oui, c'est vrai.
Ben, tu as tout à fait raison, en fait. Wow. Oui, c'est en fait au printemps de 1964, Janet s'est réveillée en plein milieu de la nuit et a senti la fumée. C'est l'astronaute Ed White, qui était voisin à ce moment-là, qui a sauté la clôture, plutôt sauté par-dessus la clôture. Je connaissais pas leur relation. On aurait pu faire la phrase différemment. Pour donc venir en aide aux Armstrong, mais ils l'ont échappé belle, donc voilà. Excellent. Deuxième question, toujours sur ce film-là, André-Jean. Est-ce que Neil Armstrong a vraiment laissé le bracelet de sa fille Karen sur la Lune?
Ouh, ça c'est... j'aurais tendance... mais bon, je vais dire oui, vrai.
Alors, la raison est non.
L'émotion, ben oui, non. Le père qui va-tu laisser son...
Ouais. Écoute, André-Jean, non, mais on sait qu'Armstrong avait apporté lui différentes choses. Il se souvient pas lui-même de tout ce qu'il avait apporté, mais il y a aucune preuve qu'il aurait pu apporter ça. Il pense pas lui non plus. ce qu'on a dit, par contre, c'est qu'il avait apporté avec lui l'une des pièces de l'avion des frères Wright qui ont servi à faire le premier vol propulsé en 1903. Alors... C'est assez différent d'un bracelet, oui. Mais dans tous les cas, tout aussi inusité. Voilà, donc c'était faux, le bracelet n'a pas été mis sur la Lune.
Moi, j'en ai une autre, pour toi, un vrai ou faux, pour savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas. Est-ce que Neil Armstrong est vraiment allé sur la Lune?
Oh! Alors, c'est malheureusement, je refuse de répondre à ça, bien sûr, vous connaissez mes allégeances.
C'est une blague.
C'est effectivement des blagues, j'ai pas de doute pour l'instant, quoique... Sait-on jamais.
Sait-on jamais. Excellent. Deuxième film, cette fois-ci, il s'adresse un peu plus à Mélina. Mélina, on va parler du film The Green Book,
oui.
Le livre vert. Donc, on va savoir si tu as fait tes recherches comme il faut. Est-ce que Tony Lip a vraiment mangé 26 hot dogs durant un repas?
Je pense que oui.
Alors oui, c'est vraiment arrivé. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. c'est vrai qu'il a, oui, il a mangé 26 hot dogs en une assiettée. Donc, maintenant, une autre question. Est-ce qu'un policier a vraiment menotté Don Shirley à une douche d'un YMCA après avoir découvert qu'il avait eu une relation sexuelle avec un autre homme?
J'irais pour oui aussi.
Et c'est vrai. Oui, c'est la seule chose, en fait, concernant la sexualité de Don Shirley qu'a pu découvrir Nick Vallelonga, qui est aussi le fils de Tony Lips. Oui. Donc, en fait, j'ai rien trouvé de faux sur ce film-là. Dans toute la liste des faits vérifiés, puis il y en a beaucoup plus que ce que je vous montre sur le site.
Bien sûr.
Tout était vrai. Donc, assez phénoménal, le film de Green Book. Mm-hmm. Fort intéressant.
À voir, tout à fait.
Je vais y aller avec un film que moi, j'ai vu. Le film The Upside, que j'ai critiqué la semaine dernière. Donc, le fameux film qui reprenait l'histoire du film Les Intouchables. Donc, en fait, évidemment, je ne vais pas me poser la question, je la connais la réponse, je vais vous la dire. Donc, parce que vous avez peut-être vu Les Intouchables, donc oui. Même principe. Donc, est-ce qu'Adèle Selou, donc qui est en fait l'aidant, a vraiment fait fumer un joint à Philippe, d'après vous?
Moi, j'irais pour oui.
Oui.
Ah, mais vous avez raison. Mais par contre, plutôt que de l'aider, comme son aidant l'avait suggéré au moment de lui donner la pof, il s'est réveillé complètement épuisé. Il avait donc 48 ans la première fois qu'il a consommé du cannabis. Et deuxième et dernière question pour The Upside, ou ça pourrait aussi être pour l'autre film, mais quoique lui est un peu différent. Est-ce qu'Abdel Selou, encore une fois, le monsieur noir, qui n'est pas noir, mais qui est représenté par Kevin Hart dans le film, avait vraiment un enfant?
Je dirais non.
Moi aussi, je dirais non.
Alors, vous avez raison, c'est non. Il n'avait pas d'enfant, en fait. Il a été engagé par Philippe, justement, parce qu'il était disponible 24/7.
C'est ça.
Donc, voilà. Maintenant, un autre film qu'André-Jean a vu, le film Bohemian Rhapsody, donc, que tu as vu, je pense, avec...
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Même, j'avais quelqu'un pour m'aider à...
Quelqu'un pour t'aider à
décortiquer la chose après.
Oui, tu es arrivé avec une thèse vraiment intéressante de ce film-là, il me semble. Moi, je vous posais la question suivante. Alors, est-ce que Freddie Mercury a rencontré Mary Austin la même nuit qu'il a rejoint le band?
J'irais pour oui. J'irais pour vrai, oui.
Alors, Mélina, toi, tu as une opinion?
J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, non.
Bon, alors la réponse est non, en fait. Non!
Il l'avait rencontré avant.
En réalité, c'est Brian May qui a rencontré rapidement, qui avait fait une petite date rapide avec Mary Austin. Et en fait, Freddie est devenu intéressé juste plus tard, en fait, Une fois qu'il était devenu le chanteur du band. Donc,
oui, ça a été, oui, oui, c'est ça. Il y avait eu une petite, un petit sous-entendu à ça, qu'à la base, c'était plus comme une espèce de potentiel groupie de,
ouais,
de Brian.
Ouais, c'est ça, à traîner autour, tu sais.
Ils se voyaient, dans, puis là, finalement, ils ont allumé plus l'un l'autre. Puis,
ouais,
okay,
ouais.
Okay, okay, okay.
Non, c'est intéressant. Est-ce que le groupe était au courant des multiples interprétations du mot, du nom de leur band, donc le mot Queen?
Oui, moi je pense que quand ils ont commencé à pogner, là, oui, je dirais vrai. Oui.
Parce qu'il y a une connotation homosexuelle
dans le truc. Oui, mais il y a aussi une connotation par rapport à la reine, à l'ampleur qu'ils avaient au niveau musical ou qu'ils visaient avoir, etc. Là.
Alors, tu as tout à fait raison. Oui, effectivement, en fait, il y avait plusieurs potentiels pour toutes les interprétations. Et quand on a demandé à Freddie Mercury à propos de cette signification-là, du nom, il a répondu... I was certainly aware of the gay connotations, but that was just one facet of it. Donc, j'étais clairement au courant de la connotation homosexuelle du nom, mais ce n'était qu'une des facettes de ce nom. Maintenant, est-ce que Freddie Mercury avait 4 dents de plus en arrière de sa bouche ou pas?
Eh boy, là, je savais qu'il y avait une dentition particulière qui avait refusé de la... Je vais y aller pour oui, vrai.
Alors, tout à fait, en fait. Ses dents d'en avant sont...
Il y a une protrusion, en fait. Oui, sont plus avancées, en fait, que la norme, en fait. Probablement à cause de cette anomalie-là. Mais je sais que... Encore là, pour avoir discuté avec la personne avec qui je suis allé le voir, qui est vraiment une fan finie de Queen, je sais qu'il a refusé de se faire modifier. Au moment où ils se sont mis à pogner, il a refusé de subir une chirurgie dentaire parce qu'il disait c'est ce que je suis, puis c'est en lien avec moi.
En fait, il avait aussi peur que ça change ce que j'ai vu, que ça change la résonance de sa voix, en fait.
Exactement,
changer,
que ça altère. Oui, parce que, donc, oui, exactement. Excellent choix de sa part.
Quand même particulier.
Oui, oui.
Quand même particulier. Est-ce que Freddie Mercury et Mary Austin étaient engagés pour se marier? Étaient autrement dit fiancés pour se marier?
Et boy, ça c'est... Non, moi je dirais non.
Alors pourtant, oui. Pendant plusieurs années que Freddie et Mary ont vécu ensemble dans les années 70, il a proposé à Mary... Et ils ont été, à un certain point, okay, là, l'engagement d'un vrai mariage.
Ah ben, vois-tu, ça c'était... Mais en même temps, les aléas de la production musicale, de ce joyeux monde...
Rend les choses beaucoup compliquées,
effectivement.
Oui, effectivement,
effectivement.
Et finalement, pour le film Bohemian Rhapsody, est-ce que Freddie Mercury aimait vraiment les chats autant que son personnage dans le film?
J'aurais tendance à dire oui, parce que l'interprétation a été adulée par tout le monde. Oui, vrai.
Bon, mais tu as tout à fait raison. Le film est tout à fait vrai dans cette façon de montrer l'adoration pour les chats de Freddie Mercury. Et selon les mémoires de l'assistant personnel de Freddie Mercury, Peter Freestone, il aurait même parlé par téléphone quand il était à l'étranger. Et donc, voilà,
il y a effectivement une phase dans le film où on se dit « Opelay » et... Moi, j'ai pas de difficulté à croire parce que, bon, c'est ça, ça se voulait quand même un petit peu, c'est romancé aussi, mais ça se voulait un petit peu biographique quand même comme truc, là, sans tomber dans sans donner des réponses que les fans finis auraient voulu avoir, finalement. Mais c'est pas pour rien que, finalement, on a adulé l'acteur qui a repris ce rôle-là, en fait, qui a pris ce rôle-là, parce qu'en fait, il s'est vraiment inspiré à fond la caisse dans l'affaire.
Oui, ouais, ça, en tout cas, ça paraît. Alors, c'est excellent. Voilà, c'était tout pour Queen. Maintenant, on va parler du film Vice qu'on a tous vu.
Oui.
Donc, vrai ou faux? Le film, en fait, dans le film Vice, qui traite de Dick Cheney, qu'on a tous adoré. On a tous adoré. J'ai même vu 2 fois au cinéma, je me confesse. Oh. Oui. Est-ce que l'homme que Cheney a tiré accidentellement lors d'une partie de chasse, c'est vraiment excusé publiquement?
Moi, je dirais non.
Émilina?
Moi, je dirais oui.
L'homme qui s'est fait tirer, finalement, là, par
L'homme qui s'est fait tirer, est-ce qu'il s'est vraiment excusé?
Non, moi, je pense pas.
Alors, Mélina a raison. C'est oui, c'est vraiment arrivé. En fait, les images qui sont réelles, en fait, c'est les vraies images qu'on voit au moment où il s'excuse. C'est une vraie image télévisuelle. Donc, ça s'est vraiment passé. Cependant, on dit aussi que Dick Cheney ne s'était pas, lui, excusé d'avoir tiré l'homme.
Ouais.
Ben, il aurait dit, ultimement, je suis celui qui a appuyé sur la détente. Donc, peut-être pour montrer que c'est plutôt à lui de s'excuser. va-t-on savoir? Toujours dans le film Vice, la mère de Lynn Cheney est retrouvée morte, noyée, alors qu'elle ne savait pas nager et qu'elle évitait l'eau comme la peste. Le film laisse croire que le mari de la victime, donc le père de Lynn Cheney, l'aurait tuée. Est-ce que c'est vrai?
Moi, j'irais avec non.
Il a dû avoir enquête depuis. Moi, je dirais oui.
Alors, oui et non. Alors, la réponse est non. En fait, il semblerait que non, même si dans les mémoires de Lynn, elle fait référence à un questionnement sur la mort de sa mère, elle décrit quand même son père comme dévasté lors des funérailles, plutôt qu'inapproprié, comme on l'a vu, et rien ne conclurait qu'il y aurait quoi que ce soit de louche au niveau du bonhomme, comme on dit.
Est-ce que c'est parce que ça aurait pu nuire au pouvoir, blablabla?
Va-t-on savoir, mais officiellement, c'est faux. Maintenant, on va savoir. Et dernière question, lorsque Dick Cheney assiste à la conférence de Ronald Rumsfeld, interprétée par Steve Carroll, on nous montre un Dick Cheney qui n'a pas encore d'opinion politique. Il décide alors d'être républicain parce qu'il veut se rapprocher de Don Rumsfeld. Est-ce que c'est vrai?
Moi, je dis oui.
Oui.
Alors, la réponse est non!
Ah!
Il y avait déjà des visées
Dick
politiques.
Dick était déjà très conservateur et influencé surtout par un professeur de l'université Yale alors qu'il était au collège, on aurait déjà oui. Alors, voilà, tout ça.
Beaucoup de
faux faits dans ce film-là.
Ouais, 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 ouais.
Ça laisse réfléchir un peu plus.
En même temps, c'est-à-dire, on nous le dépeint, mais sans nécessairement clarifier dans cette scène-là. Si on se rappelle, je veux dire... Il donne pas l'impression, mais est-ce que c'est tout ce qu'il dit? Mm-hmm. Parce qu'on se rappelle que tout le long du film, on comprend une chose, c'est que cet homme-là ne parle pas, en fait. C'est ça qui arrive. On n'arrive pas à le lire. Donc, il n'y a pas de clarification. C'est pas une affirmation claire dans le film comme quoi il n'y a pas de parti. Il semble, interagissant avec son partenaire d'études.
Il dit, lui, il est républicain ou démocrate? Puis là, l'autre, il répond, ah, lui, il est républicain. Ah, ben, je suis républicain, alors.
Moi, ça me semblait, oui,
c'est
mais ça, moi, ça me semblait.
Drôle,
oui, c'est ça, on joue avec le. Mais c'est ça, c'était romancé aussi.
Je pense que comme tu dis, on essaie de montrer un peu la personnalité du personnage.
Du monsieur.
Peut-être en traficotant les faits un peu pour que ça soit plus évident. Alors voilà, c'est tout pour ce petit bloc oui ou non, ou vrai ou faux. On appellera ça comme on voudra. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu.
Oui, très intéressant.
Oui, bien.
Intéressant. Bon, on continuera ça une fois de temps en temps quand on aura suffisamment de films à regarder. Alors voilà, c'était tout pour ce petit bloc. Et c'est déjà tout pour Cinébrunch cette semaine. Mon nom est Jim Boulay, Mélina Lopez-Nadeau, André-Jean Rouleau, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, merci.
Merci à tous nos auditeurs. Oui. On se retrouve la semaine prochaine à 11h le samedi pour un autre Cinébrunch et en rediffusion le mardi à la même heure. Sinon, toujours possible de nous écouter en rediffusion sur notre site internet cinébrunch.com ou encore sur votre application Balado.
Et vous pouvez bien sûr aller voir sur notre site pour commencer à vous familiariser avec notre page Facebook
parce qu'éventuellement
il y a des concours, c'est-à-dire des petits tests qui vont se faire.
Oui, André Jean, tu vas nous préparer un petit quelque chose.
Ben,
pour
ça sera mon deuxième bloc, là, bien sûr, sur le cinéma américain. Et on va probablement avoir un petit jeu auquel vous pourriez participer.
Excellent. Donc, tout ça sera sur notre page Facebook. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bonne semaine.
Au revoir.
Bonne semaine.